Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Avant que la demande en mariage ne devienne un rituel mondialisé et instagrammable, performé dans divers lieux publics plus ou moins romantiques ou ridicules, avant que les hommes ne se mettent à genoux dans un geste unique de soumission précédant leur prise de pouvoir pour le reste de l'existence, la demande en mariage fut un moment obligé de la littérature qui l'a très vite tournée en dérision. Celle de Charles Bovary, par exemple, à Emma, est un misérable balbutiement du médecin Pato qui n'arrive même pas à prononcer la formule. Une autre fameuse est celle de Darcy à Elizabeth Bennet dans Orgueil et préjugés de Jane Austen. La jeune femme envoie le freluquet vertement baladé et lui refuse sa main sans la moindre apparence de politesse, outré par sa prétention, son outrecuidance, son orgueil, en somme. Elle résume ainsi son sentiment, je cite « Votre manière d'être m'a dévoilé toute votre arrogance, votre amour-propre et votre mépris pour les autres. Il n'y avait pas longtemps que je vous connaissais, que je sentais déjà que vous étiez le dernier homme du monde auquel j'eusse pu désirer d'unir mon sort. » Tout de suite dans les pieds sur terre, faire sa demande, deux autres demandes, pas seulement en mariage, beaucoup plus joyeuses et heureuses, quoique, par Timothée de Roglaudre.
Je m'appelle Marie, j'ai 71 ans. Je vis un peu en province, un peu en région parisienne. Et aujourd'hui, je suis retraitée, je me lis avec mes amis, je les vois, je m'occupe de mes petits-enfants. Une vie sans complexité, vraiment. J'ai eu un enfant avec un monsieur avec qui j'ai vécu pendant 25 ans. Je l'ai quitté en 2006, ce monsieur. Je n'ai jamais été mariée. J'avais même refusé toutes sortes de pacs, de liens, de quelque nature que ce soit. Pas de compte commun. Voilà, mais j'ai trouvé ça très convenable et très facile à vivre. Et voilà, j'étais pas du tout dans le profil de me marier parce que c'est plus facile pour avoir des enfants, tout ça. J'ai rien trouvé d'incommode à ça. Et donc, je n'avais pas non plus le besoin de me marier par affection. Je trouvais que l'engagement d'avoir un enfant avec un homme, c'était bien plus fort que de se marier. Vis-à-vis du mariage, j'ai jamais eu aucun questionnement et aucune envie. Et bon, la vie a montré qu'on pouvait changer d'avis. Quand j'ai quitté ce monsieur que j'avais aimé pendant si longtemps, je l'ai quitté parce que un jour j'ai eu le sentiment que notre histoire était finie. Pour lui ça a été un déchirement, mais ça m'a semblé être juste et honnête de m'en aller. Et voilà, j'ai pris un appartement ailleurs et j'ai continué ma vie. J'avais une activité professionnelle, donc j'étais assez occupée. Je m'occupais aussi de mon fils, j'avais plein d'amis. Et les choses ont avancé comme ça. À cette époque-là, quand je suis partie de cette relation, je travaillais, comme j'avais toujours fait d'ailleurs, dans une entreprise. Et dans cette entreprise, il y avait une population masculine assez importante. Et mon job, c'était de m'occuper du développement professionnel d'une certaine catégorie de population. J'étais en contact avec Philippe, en contact plus rapproché qu'avec les autres, parce qu'il était désigné par la direction de l'entreprise comme étant un acteur décisif pour imaginer de nouvelles formes de travail, de nouvelles organisations, de nouvelles circonstances, etc. Et donc, dès ce moment-là, et pratiquement dès mon entrée dans l'entreprise, il a été différent des autres, parce que c'était quelqu'un qui avait une relation avec moi de solidarité, c'était quelqu'un qui était vraiment attentif à ce que je me retrouve jamais seule devant la direction générale pour présenter des projets qu'on avait étudiés ensemble. Donc tout ça, c'était quand même très séduisant, peut-être pas séduisant, mais en tout cas rassurant et attachant. Donc ça a duré comme ça pendant assez longtemps. Ça a duré de 87 à 2012, je pense. Un jour, au restaurant d'entreprise, Philippe me propose de déjeuner avec lui. Et je lui réponds que je ne suis pas disponible parce que j'ai déjà un déjeuner professionnel avec quelqu'un d'autre. Et quelques jours plus tard, il me dit « Puisque tu déjeunes avec Truc, tu pourrais peut-être dîner avec moi. » Mon cerveau se met à s'agiter, je me mets à rêver de d'une relation qui ne serait pas que professionnelle. Et en même temps, je me dis, mais il dîne avec moi parce que on est en contact professionnel. Calme-toi, Marie. Tout ça est bien d'une grande banalité. Tu as ton âge. Calme-toi. Et j'attends quand même avec impatience le moment où je vais lui répondre. Mais je tourne un petit peu, j'ose pas, je réfléchis. Et donc, ça fait 2-3 heures que j'ai reçu cette demande. Et je vais rentrer en réunion. Et là, je prends mon téléphone. Et je dis, bah d'accord, ce soir. Et donc, ce soir-là, nous dînons pour la première fois ensemble. Dans un restaurant que je fréquente régulièrement, où il y a de la complicité avec les serveurs, etc. Il n'y a pas de place dans le restaurant, donc on nous fait asseoir au bar. Comme on a quelque chose à fêter professionnellement, on boit un peu de champagne. Et puis finalement, on a une table qui se libère, on s'assied à cette table. Et l'atmosphère est un peu électrique, elle est très souriante, mais elle est professionnelle néanmoins. Le dîner avançant, on nous redéplace encore ailleurs, je ne sais plus pourquoi, peut-être parce que les serveurs sentaient qu'il y avait une atmosphère un peu particulière, on nous remet dans un coin plus tranquille. Et puis au bout d'un petit moment, mais quand je dis un petit moment, ça dure quand même peut-être 2 heures ce dîner, il prend ma main. Je me dis c'est peut-être pas que professionnel alors. Mais je reste quand même tranquille et je trouve que quand même au bout d'un moment ça dure vraiment longtemps. Alors je lui fais une bise sur la joue. Et donc on reste là, main dans la main. Après cette bise, moi je dois être écarlate. Et je pense à avoir le sourire béat des gens qui sont un peu amoureux et dont on ne comprend pas pourquoi ils sourient béatement. Le dîner se termine, on rejoint ma voiture. Et il me prend dans ses bras et il me dit « je t'aime ». Et là, je suis morte de peur. Parce que je me dis, je t'aime, on se connaît depuis 2 heures. On a eu un contact qui n'est pas que professionnel depuis 2 heures. Comment il peut dire je t'aime? C'est un serial lover, ce garçon. Faut se méfier, quoi. Faut faire attention. Et voilà, j'ai un peu peur. Et à la fin de la soirée, je le raccompagne à son appart. Et je rentre à mon appart, voilà, très contente. Philippe, je sais depuis toujours hein, qu'il a une vie personnelle ailleurs, qu'il est marié, qu'il a lui-même un enfant. Son enfant est grand, il s'appelle Sacha, il a le même âge d'ailleurs que mon fils. Ça va avoir des effets dans la façon dont notre vie évolue, bien sûr. Petit à petit, c'est tellement agréable que je commence à me dire... Finalement, ce garçon-là, j'en ferais bien quelque chose. Ce quelque chose, ce serait de me marier. Parce que à l'époque, donc, j'ai pas loin de 60 ans. Et je trouve ça quand même rigolo de se marier à 60 ans alors qu'on a tout refusé jusqu'à présent. Je suis sûre que c'est une très bonne idée de me marier, tellement c'est un clin d'œil à la vie, tellement ça n'arrive pas de se marier à 59 ans, et en même temps c'est tellement raisonnable de le faire à cet âge-là, au moins on sait ce qu'on fait. Et donc voilà, je berce un petit peu cette idée. Et un jour, je suis raccompagnée par une de mes camarades de bureau à proximité de mon appartement, et je passe devant une boutique... qui affiche dans sa vitrine des robes de mariée. Et je lui dis, tu vois, quand je me marierai avec Philippe, je m'achèterai une robe ici. Évidemment, à ce moment-là, Philippe s'est séparé de sa femme, il est libre de ses actes, et ma petite idée de robe de mariage continue de pousser dans ma tête et de me faire rêver. Mais en même temps, je me dis, je peux quand même pas me lancer dans une opération comme ça... sans en parler avec Sacha. Donc on dîne tous les deux, etc. Et je lui demande l'autorisation d'épouser son père. Je lui demande la main de son père, en fait. Il ne marque pas vraiment d'étonnement et il me donne la main de son père. Et donc là, il me semble que je suis équipée pour me lancer dans une démarche de demande en mariage. Et alors, je voudrais la mettre en scène un petit peu, cette démarche. Je cherche un peu comment m'y prendre. Et il se trouve que pendant mon anniversaire, la famille et Philippe ont préparé une chanson. Ils chantent « J'irai à New York avec toi » de téléphone. Et alors ça me revient et je me dis, je pourrais l'inviter à New York. Je réserve quelques jours à New York, au Novotel, à une date donnée. J'ai bien entendu fait attention à dire à Philippe que je voulais absolument aller dans sa résidence de province à cette date-là et qu'il faut absolument qu'il soit disponible à ce moment-là parce que moi, je veux y aller à ce moment-là. Il ne fait pas d'objection et il arrête son agenda pour qu'il soit disponible à cette date-là. On est à 15 jours de la date. On décide d'aller se balader dans Paris, on est dans un bus, il me dit « bon, tu me donnes les horaires de départ du train là, parce que moi j'ai quand même besoin de savoir un petit peu comment ça se passe, hein, le départ et le retour. Hein. » Et donc je lui mets les billets d'avion sous les yeux. Il marque un silence assez long, et sur un ton un peu agacé, il me dit « j'aurais bien aimé être au courant quand même. » Je me dis « zut, ça démarre mal, c'est pas comme ça que j'avais vu les choses. » Et puis bon, finalement, il est content d'apprendre que je lui offre ce voyage pour qu'on le fasse à deux en amoureux. Et donc, on passe une journée superbe à Paris, on se balade. Voilà. Et donc, une fois que je sais qu'il vient à New York avec moi, j'ai toujours l'idée d'organiser les choses de façon à ce qu'elles soient un peu romantiques une fois qu'on est sur place. Alors, évidemment, je m'équipe d'un guide du routard pour voir comment et où je pourrais faire ma demande. Je découvre que la gare centrale de New York est équipée d'une pièce qui s'appelle la salle des chuchotements, un peu une salle des pas perdus comme on aurait à Paris, et que dans cette salle, ça s'appelle la salle des chuchotements parce qu'il y a une acoustique extraordinaire qui fait que quand on parle d'un angle de la salle, on peut entendre ce qu'on chuchote de l'autre côté de la salle. Alors je me dis, c'est exactement ça, je vais faire ça. Et donc, quand on arrive à New York, on essaie de décider un petit peu ce qu'on va faire pendant le séjour, etc. Et donc, je lui dis, moi, je veux aller à la gare centrale. Lui, il trouve pas ça bizarre. Il dit que c'est une bonne idée d'aller à la gare centrale. Donc, on va à la gare centrale. Je cherche la salle des chuchotements. Je ne trouve rien du tout. Et donc, on repart de la gare centrale de New York, comme ça. Quand on revient à l'hôtel, évidemment, en cachette, je regarde un peu mieux mon guide de routard pour essayer de retrouver la salle. Donc je refais un caprice pour retourner à la gare centrale. Nous revoilà dans la fameuse salle, je l'ai trouvée, et donc là je le mets à l'angle d'un poteau, et je lui dis, voilà, cette salle elle fonctionne comme ça, l'acoustique est particulière, moi je vais aller à l'opposé, je vais te dire quelque chose, et là tu vas m'entendre, tu vas voir, c'est particulier cette salle. Bon voilà, je vois qu'il bouge pas, il reste là, très bien, moi je vais de l'autre côté de la salle. Et là, je lui dis, tu sais, j'ai demandé à Sacha, il est d'accord, il me donne ta main, voudrais-tu m'épouser ? Et là, je me dis, bah, finalement, cette salle, elle marche pas, hein, parce que j'entends rien du tout. Donc, je traverse la salle en courant, en me disant, ça va pas marcher. Et je rejoins Philippe. Il me regarde de façon un peu étrange, mi-souriant, mi-interrogé. Et je lui dis, tu m'as entendu ? Ouais, ouais. Et alors ? On est obligé de répondre tout de suite. Bah non, bien sûr, hein. Tu peux réfléchir, hein. Tu peux réfléchir. Ça, c'était en 2014. Et depuis 2014, il réfléchit. Le fait de faire ma demande en mariage, il n'y avait pas vraiment d'enjeu pour moi. C'était plutôt un moment de gaieté et de clin d'œil à la vie. Et pour tout dire, je pense que je n'avais pas imaginé que ça pourrait être non. Voilà. Dans la suite des mois qui vont passer, je me rends compte que Philippe, il n'est pas bien à l'aise. Et alors, il a besoin d'expliquer pourquoi non. Parce que la dernière fois qu'il s'est marié, c'était il y a une dizaine d'années, qu'il ne veut pas recommencer et que c'est un très mauvais souvenir. Enfin voilà, cette question de mariage, c'est une question difficile pour lui. Je raconte cette histoire pour rire un peu dans les dîners en ville, si on peut dire. Mais dans notre vie quotidienne et dans la façon dont s'est développée notre histoire, il n'y a pas eu vraiment de conséquences. Je crois que notre histoire aujourd'hui, elle est douce, elle est tranquille, elle est équilibrée. Et donc là maintenant, ça fait plusieurs années quand même qu'on vit ensemble et ça suffit pour dire qu'on est amoureux.
Je m'appelle Tatiana, j'habite dans le nord de la France, une commune qui s'appelle Saint-André. J'ai 75 ans et je suis psychothérapeute à temps partiel. J'ai été mariée, j'ai divorcé 6 ans après. Et ensuite j'ai eu une longue période de vie seule et je me suis remariée il y a 11 ans. Mais moi j'ai pas eu d'enfant biologique en tout cas. J'avais jamais pensé avoir des enfants. J'avais plutôt construit ma vie autour du travail. Bon, avec mon premier mari, la relation n'a pas été très très longue. Puis avec mon deuxième mari, ben, on s'est rencontrés, c'était déjà trop tard. J'avais plus que passé l'âge d'avoir des enfants, quoi. Pas avoir d'enfants, ben, ça ne m'a pas trop gênée. Ce qui m'a gênée, c'est de ne pas être grand-mère. Quand mes amis sont devenus grand-mères, je me suis dit, oh ben... Ça m'a fait comme un manque, quoi. Un manque du côté de la transmission, un manque. Oui, un manque du côté de la suite des générations. Je fais partie de la fraternité diocésaine des Parvis, à qui est confiée l'église Saint-Maurice près de la gare de Lille. Et là, on a eu pendant un temps l'accueil de migrants. Bon, c'est vrai que sur Lille, il y a pas mal de migrants. Bon, il y a toute la question de Calais, mais à Lille, il y en a beaucoup aussi. Et c'est pas tout à fait les mêmes. À Lille, c'est beaucoup plus des mineurs non accompagnés. Qui ont envie de rester à Lille, qui n'ont pas du tout envie de partir en Angleterre. Hein. Et pendant tout un temps, les jeunes tournaient tous les 15 jours dans les paroisses. Et là, on a eu des appels pour aider, et puis moi, je me suis engagée. Après ça, ça s'est arrêté, parce que le centre de la réconciliation, qui est très très actif sur le Nord, enfin sur Lille, dans l'accueil des migrants mineurs, a trouvé une maison à Wettigny pour accueillir 15 jeunes. Le Centre de la Réconciliation, c'est un centre avec un pasteur protestant qui a commencé à prendre en charge les migrants qui arrivaient, puis qui s'est progressivement développé. Et puis ensuite, au presbytère donc de cette église Saint-Maurice, le curé a accepté tous les ans de prendre en charge deux jeunes mineurs, en général déjà scolarisés, par le Centre de la Réconciliation. Et là, ben, je me suis mis aussi à m'occuper de ces deux jeunes, voilà. Alors le presbytère qui accueillait ces deux jeunes, c'est aussi le lieu où habitait le prêtre qui officie à Saint-Maurice. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait vraiment un prêtre qui était extrêmement favorable à l'accueil. Bon, encore aujourd'hui, hein, favorable à l'accueil, mais très engagé, très footeux, comme on dit dans le Nord. Donc il adorait le foot. Alors avec tous les jeunes africains, ça marchait vraiment très très bien, quoi. Dans cet accueil-là, d'année en année, donc les jeunes se renouvelaient. Puis un beau jour est arrivé deux jeunes envoyés par le Centre de la Réconciliation. Deux jeunes qui avaient été accueillis dans une famille où ça commençait à plus aller trop trop bien. Et donc le Centre de la Réconciliation nous a proposé de les prendre. Et puis en fait, quand j'ai vu Mohamed arriver, c'est très étrange d'ailleurs parce que ça faisait... plusieurs années que je voyais arriver tous les ans des jeunes. Et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, oh, c'est pas comme d'habitude. Il y a quelque chose de... C'est comme si je le connaissais. Lui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme si je le connaissais, quoi. Quand Mohamed est arrivé au presbytère, il avait 17 ans. Il est du mois d'août, il est arrivé en octobre. Donc, il avait 17 ans, c'était en 2020. En septembre 2020, donc il est arrivé dans toute cette période Covid qui n'était pas simple. Alors lui vient de Guinée, la Guinée-Conakry. C'était une famille qui travaillait la terre pour vivre. Et lui avait 11 ans quand son père est mort et 13 ans quand sa mère est morte. On croit toujours que les migrants choisissent de partir. Et en fait, Mohamed n'a pas vraiment, vraiment choisi de partir. Quand il s'est retrouvé orphelin, il s'est mis à travailler pour un taxi. Et un beau jour, ce chauffeur de taxi l'a amené à la frontière du Sénégal et l'a donné là à un passeur. Il a traversé la Méditerranée, donc il a attendu longtemps pour prendre le bateau. Et c'est bien entendu un Zodiac qui a percé. Ils ont été rattrapés par un bateau de commerce qui a appelé le bateau de la Croix-Rouge espagnole. Et ils sont arrivés en Espagne et il a été amené à Madrid dans un camp de la Croix-Rouge. Et il aurait pu rester, mais en étant enfant, il faisait déjà beaucoup de foot. Il entraînait une équipe de petits à 13 ans et en fait, il avait vu jouer le LOSC, le club de Lille. Et à Madrid, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est passé par là et qui a dit « Moi, je m'en vais à Lille ». Et il a dit « Mais moi aussi, je m'en vais à Lille ». Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Lille, en mai 2019. Ce qui se passe, c'est que quand des jeunes arrivent dans un endroit où ils se sentent un peu en sécurité, toute leur histoire remonte. Et c'est des moments pas toujours faciles. Et donc, comme je suis psychothérapeute, dans ces cas-là, je joue un peu ma psy. Et Mohamed était dans ce cas-là. Et donc, je lui ai proposé de le voir un peu régulièrement, quoi. Donc, je voyais à peu près tous les semaines ou tous les 15 jours, selon mes possibilités. En général, on se voyait dans la cuisine du presbytère. Au moins, là, on n'était pas embêtés. Et c'était au cours d'une conversation comme ça où tout d'un coup il s'est levé. Parce que les choses très importantes, Mohamed les dit debout. On était assis autour de la table et tout d'un coup il s'est levé. Et il a dit, est-ce que je peux vous poser une question? J'ai dit, mais oui, bien sûr, vas-y, quoi. Et la question, ça a été, est-ce que vous voulez être ma mère? Et donc, on s'était connus au mois d'octobre, et ça, c'était tout début février, quoi. Donc, c'était quand même très, très rapide. Moi, j'ai été d'abord quand même touchée de cette confiance, parce que c'est pas rien d'oser demander ça. Et puis, j'ai bien senti que des larmes arrivaient dans mes yeux, mais des larmes plutôt de joie et d'émotion. Et je lui ai dit, je crois que j'ai un peu bafouillé un peu au départ. Et j'ai dit, des parents, tu en as eu, même si ta mère et ton père sont décédés, nous, on pense qu'ils sont peut-être quelque part et qu'ils peuvent continuer à veiller sur toi. Et donc ça s'est arrêté là, avec la promesse d'en reparler la semaine d'après. Et la semaine d'après, je lui ai dit, bon, alors voilà, tu m'as posé cette question, et moi, je vais t'en poser une. Qu'est-ce qui fait que tu m'as demandé ça? Et il m'a dit, parce que quand je suis avec vous, je suis bien. Oh, j'ai dit, ça tombe bien, moi aussi. Et j'ai dit, bon, c'est quand même une bonne raison pour être ensemble, quoi. Moi, je l'ai su tout de suite. Dès qu'il est arrivé, je me suis dit, oh, c'est pas du tout comme les autres. Bon, j'ai rien fait, j'ai rien dit, hein, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'étrange, quoi. Hein, donc, des tranches de bon, hein, c'était une rencontre, quoi. Sa demande, elle m'a à la fois surprise et en même temps pas étonnée. Je savais que c'était partagé, je savais qu'il y avait un lien très fort entre nous deux. Et lui, il dit quelquefois maintenant, il dit, mais il y a un lien jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et puis c'est ce que c'est, la mort qui sépare. C'est le 16 février que j'ai dit oui. Et tous les ans, le 16 février, on fait un gâteau avec des bougies. Et voilà, on fête l'anniversaire du oui. Ça s'appelle l'anniversaire du oui. D'avoir dit oui, ça m'a aussi donné envie de le protéger. J'ai une amie qui a adopté et qui avait fait avant aussi un baptême. Alors, je crois que c'est pas tout à fait le mot juste, on dit plutôt parrainage républicain. Ce qu'on a fait à la mairie de Lille, et ça a été une cérémonie assez extraordinaire, quoi. Vraiment, très très belle cérémonie. L'adjointe au maire a fait un discours, mais remarquable, d'inclusion dans la société française, de reconnaissance. Et donc, elle m'avait aussi interrogée. Et moi, je lui ai dit, écoutez, je vais vous dire une petite anecdote. Pourquoi Mohamed est à Lille? Et je lui ai dit, vous savez, Mohamed est à Lille parce qu'il adore le LOSC. Oh, elle a dit, je vais voir auprès de mes services techniques si je peux pas trouver un petit cadeau du LOSC pour le parrainage républicain.
Et donc, elle a fait tout le parrainage républicain. Et puis, tout d'un coup, elle est arrivée avec ces grands calicots qu'on met dans les villes, sur les boulevards, pour annoncer la saison du LOSC, etc., etc. C'est des espèces de bannières, en fait. Et donc, elle lui a offert un calicot du LOSC. Et Mohamed, vraiment, il a retenu ses larmes. Hein. Il a vraiment retenu ses larmes. C'était une émotion extraordinaire. Et ce calicot, il l'a évidemment toujours, toujours. Et c'est vraiment un truc précieux pour lui. Le parrainage républicain était prévu un 9 juillet. Et en fait, Mohamed a été reconnu mineur le 2 juillet. Alors quand ils sont reconnus mineurs, le département doit les prendre en charge. Et dans les 3-4 heures, ils partent. Il a été envoyé dans une association. Donc le département sous-traite à des associations la prise en charge des mineurs reconnus. Et ce service les met en colocation. Pendant cette période-là, il venait vivre tous les week-ends ici. On partait en vacances avec lui. C'était vraiment très très chouette. Ce parrainage républicain, pour nous, c'était une première étape. Assez rapidement, on avait pensé à l'adoption. Ça m'a semblé une suite assez logique, quoi. Et donc l'adoption, c'est quand même une démarche qui prend quasi une année. Ça a été toute une affaire et l'adoption a été prononcée au mois de septembre. C'est quand même, ça prend du temps. Ça prend quand même du temps. On s'est dit que, à un moment donné, le faire revenir vivre avec nous, c'était peut-être un peu le faire régresser. Et quand il a eu 19 ans, on s'est plutôt orienté vers trouver un appartement. Donc il a un appartement pas très loin de l'église Saint-Maurice, à côté du presbytère, là où il a vécu. Bon, moi qui n'avais pas voulu d'enfant, c'est comme si un enfant m'arrivait à l'âge où je devrais être grand-mère, mais un enfant m'arrivait sur un tard, comme envoyé du ciel, quoi.
He's keeping busy as bidding stones, with his machinations and his palindrome. Anything but hear the voice. Anything but hear the voice. It was anything but hear the voice that says that we're all basically alone. Poor Professor Pynchon had only good intentions when he put his Bunsen burners all away. Turn into a playground, petri dish, where single cells would swing their fists at anything that looks like easy prey. Nature show that rages every day. It was then the party's intuition say we were all basically alone, and despite what all his studies had shown, that this mistaken for closeness was just a case for mitosis. What? Assumption of mercy while others are painfully shy. And tell me, doctor, can you quantify? He just wants to know the reason why.
C'était Faire sa demande, un reportage de Timothée Doreau-Claude réalisé par Louise André. Merci à Marie, à Philippe, à Sacha, à Tatiana, à Mohamed et à Véronique Durand. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue. Sébastien.
Why do they congregate?